Rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Mayol, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Le journal d'Haïti et des Amériques, de nouveau consacré à la situation en Haïti après le séisme et désormais la dépression tropicale. Nous serons avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Nous ferons le point avec lui sur la situation ce matin. Michel Lacharité, responsable des urgences à Médecins Sans Frontières, sera notre invité. Nous évoquerons avec lui l'organisation des secours sur place. Le journal des Outre-mer sera lui présenté par Benoît Ferrand. Benoît, bonjour.
Bonjour Mayel.
Et les non-vaccinés devront désormais faire plusieurs tests Covid pour voyager entre les Antilles et la Guyane, Benoît.
Les conditions d'entrée en Guyane sont désormais draconiennes pour les non-vaccinés. Effectivement, motif impérieux et test négatif exigé au départ avant un nouveau test à l'arrivée à Cayenne.
Nous vous retrouvons tout à l'heure, Benoît.
RFI à Jérémy, 92.7 FM.
Franz Duval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du Nouvelliste actuellement à Port-au-Prince. La tempête Grace a commencé à frapper Haïti. Quelle est la situation à Port-au-Prince et dans les régions déjà sinistrées par le séisme?
Bon, à Port-au-Prince, le temps est encore couvert, mais il faut dire que Grace est presque derrière nous. Grace a laissé le territoire haïtien. Maintenant, il est dans le canal de la Mona. Mais les effets se font encore sentir. Je viens de parler au correspondant du Nouvelliste au CAI. La ville s'est réveillée un peu les pieds dans l'eau ce matin. Et il y a eu beaucoup de vent qui a mis à terre les abris précaires que les gens avaient érigés après le séisme, car les gens ne veulent pas rester à l'intérieur des maisons, ou bien parce que la maison n'existe plus, ou bien parce que la maison est fissurée, ou bien parce qu'ils ont peur tout simplement. Alors les gens étaient plutôt à la belle étoile depuis samedi, mais là, la tempête les a forcés dans certains cas à rentrer sous des abris auxquels ils ne font pas confiance parce que tout simplement les tentes ont été emportées et les feuilles de plastique ont été emportées et il pleuvait. Alors c'était une nuit très difficile pour les CAI en particulier, mais en réalité pour tout le Grand Sud où le séisme a frappé samedi.
Plus largement, comment s'organise l'acheminement de l'aide dans le territoire haïtien?
Alors, le directeur général de la protection civile vient de parler sur une radio expliquant que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu cette année de prépositionnement d'équipements et d'aide dans le sud du pays, parce que d'habitude, à Haïti, là, nous sommes dans la saison cyclonique. Même s'il n'y avait pas de séisme, et on aurait dû préparer la saison cyclonique. Et la préparation de la saison cyclonique passe par le prépositionnement de stocks d'aide et pour s'il y a un ouragan. Cette année, cela n'a pas pu se faire parce que certaines routes, particulièrement celles qui mènent vers le Grand Sud, sont occupés par des gangs et on n'avait pas osé faire passer des convois pour aller faire des prépositionnements. Aujourd'hui, on essaie de tout mettre en place. Il y a l'aide qui arrive, il y a la logistique qui se met en place, il y a tout ce qui doit être fait, qui est en train d'être fait, mais avec du retard, avec des difficultés, et d'autant plus qu'il faut traverser la moitié du pays pour aller en aide aux trois départements qui ont été frappés. Je dirais que lentement cela se passe. Pour le moment, ce qui marche le mieux, c'est le point aérien et mis en place grâce aux États-Unis, grâce à certains transporteurs privés, grâce à des moyens déployés par le gouvernement haïtien, qui essaie de rapatrier vers Port-au-Prince les blessés les plus graves, car ceux qui ont été blessés par le séisme se retrouvent dans des villes où les centres hospitaliers ne sont pas équipés, ne sont pas en capacité d'accepter des milliers de blessés. Alors on essaie d'évacuer vers Port-au-Prince depuis dimanche le maximum de blessés pour les mettre dans les hôpitaux à Port-au-Prince. C'est ce qui marche le mieux. Mais l'aide alimentaire, l'aide pour se loger, cela se met en place lentement et ça va arriver sans doute dans les jours à venir.
Est-ce que la situation politique compliquée en Haïti complique l'organisation des opérations de secours?
Pour la simple et bonne raison que quand Haïti est frappé par une catastrophe, la classe politique s'arrête de faire de la politique. Ça, on doit le dire, depuis samedi, et c'est l'unité nationale, le premier ministre qui est là, qui n'avait pas encore eu, je dirais, le pouvoir en main, est en train de faire des appels à l'unité et aucun parti politique n'a fait de commentaires ou bien fait des appels pour déstabiliser le gouvernement.
Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. Et on reste encore en Haïti avec la revue de presse. Bonjour Harim Lipold.
Bonjour Mayol, bonjour à tous.
On vient de l'entendre, les interventions des autorités haïtiennes pour venir en aide aux personnes sinistrées restent encore timides.
Oui, timide, c'est effectivement le mot employé par l'agence Alta Presse qui décrit le désarroi des habitants dans les zones touchées par le séisme. Et à présent, par la tempête aussi. Selon Alta Presse, eh bien, ces habitants ont besoin de tentes, d'eau et de nourriture, des besoins vitaux que les autorités, malgré leurs promesses, ne peuvent pas satisfaire. Selon le journal en ligne, le séisme a détruit de nombreuses infrastructures scolaires, sanitaires et religieuses, dont tous les trois départements du Sud, des NIP et de la Grand-Anse.
Et justement, les églises à Rimes jouent un rôle important pour la population qui vit déjà en temps normal dans des situations très précaires.
Oui, nous sommes la seule institution vers laquelle les gens peuvent se tourner, explique le révérend Yves-Joël Jacqueline dans le New York Times. Il poursuit, il n'y a aucune aide de la part du gouvernement, selon les reporters du journal. Eh bien, toutes les églises autour de la ville d'Écaille ont été détruites ou fortement endommagées. Malgré cette situation, on garde toujours l'espoir, explique le père Jacqueline. Tant qu'il y a des gens, des personnes qui vivent ici, nous pourrons reconstruire notre communauté.
Et parmi les églises détruites, il y a celle de la commune des Anglais. Elle faisait la fierté des habitants. Elle était ravagée par la secousse. Le reportage de notre correspondante sur place, Amélie Baron.
Samedi matin, le père Wilson Exantus Antoine venait de finir de célébrer la première messe de la journée, celle de 6h30. Avant de retourner pour célébrer les baptêmes, il était allé prendre un café au presbytère. C'est alors que le séisme a eu lieu. Avec son clocher en façade, l'église de l'Immaculée Conception des Anglais n'a pas résisté. Ce petit joyau architectural construit en 1907 est en ruine et le prêtre se désole du nombre conséquent de victimes recensées dans ce lieu de culte.
Il y a plein de monde qui était en bas de compte, mais heureusement...
Beaucoup de personnes étaient sous les décombres, mais heureusement, nous avons une compagnie taïwanaise qui travaille à la construction d'un pont à l'entrée de la ville. Alors on a immédiatement fait appel à eux et ils nous ont aidés avec la population à retirer beaucoup de gens des décombres. Malheureusement, nous avons tout de même 17 ou 18 personnes qui sont mortes dans l'église et ce sont une majorité d'enfants. La victime la plus âgée avait seulement 24 ans.
Sur la place, les habitants de la petite ville côtière devisent devant les ruines de leur église et comme à travers toute la zone affectée par le séisme, les uns et les autres se racontent où ils étaient lors de la secousse et chacun détaille aussi la liste de leurs proches qui ont été tués durant la catastrophe. Amélie Baron, Les Anglais, RFI.
Et des Haïtiens déterminés à faire face à la situation dramatique. On en trouve aussi dans les hôpitaux à Rimes-Lipold.
Oui, le journal canadien La Presse a rencontré des médecins d'un hôpital au Caille qui travaillent d'arrache-pied pour soigner des patients et cela même sans même recevoir de salaire. Un médecin rencontré par La Presse explique que cela fait 3 mois qu'il attend sa paye. Alors pourquoi continue-t-il à se présenter à son poste tous les jours ? Lui demande le journaliste. Eh bien, c'est une obligation, répond-il. Un autre collègue ajoute, c'est pour aider les gens. Et un autre médecin raconte que des collègues d'autres parties du pays sont venus spontanément pour aider. La plupart des soignants restent ailleurs à l'hôpital, même après avoir terminé leur journée de travail. Sans eux, on ne pourrait pas s'en sortir, explique le médecin au reporter de La Presse.
Merci, Arimel Pold. Michel Lacharité, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des urgences à Médecins Sans Frontières, ONG présente sur place avant le séisme samedi à Haïti, avec au moins 40 volontaires et 1000 salariés. Elles ont pu se rendre rapidement dans le sud-ouest du pays. À quelles urgences médicales sont confrontées vos équipes sur place et dans quelles conditions est-ce que vous soignez les blessés ?
Donc la situation est critique pour la population en ce moment. Il y a beaucoup de blessés dans les hôpitaux des trois grandes villes du sud, donc Miragoâne, Jérémie et Les Cailles. Aujourd'hui, les premiers blessés sont bien pris en charge, mais il y a aussi un enjeu à trouver, identifier et faire sortir les blessés qui sont isolés dans les villes des périphéries. Le deuxième problème principal, c'est que les personnes qui n'ont plus de maison, soit parce qu'elles sont détruites ou parce que les gens ont peur d'y retourner. Ainsi, la question de l'accès à un abri, à de l'eau et de la nourriture se pose et doit être adressée dans les prochains jours.
Vous parlez des zones périphériques. Vous n'avez pas accès de la même façon à toutes les zones dans cette partie du pays.
Donc, il y a beaucoup de routes qui ont été bloquées à cause de glissements de terrain. Donc, c'est le cas pour la route qui relie Caille et Jérémie. C'est aussi le cas entre d'autres villages, donc par exemple Dame-Marie est isolée, certaines villes ou localités autour de Baradère ne sont pas accessibles. Donc tous ces endroits, on essaie de faire le maximum pour les rallier soit en voiture ou en hélicoptère, mais la question du transport, des références des patients est extrêmement difficile et aussi ça ralentit le déploiement des secours.
C'est le cas notamment à Pestel, hein, où la situation est particulièrement critique. Je vous propose d'écouter le témoignage de Guy Amorce Marcelin. Il est directeur de la communication de la mairie.
La situation pour Pestel, c'est très compliqué. Nous avons 46 morts. 90% des maisons de Pestel ont été détruites pendant le coulement de terre. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de bassin. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y avait pas d'eau à Pestel depuis des années. Donc, nous avons utilisé l'eau des puits et qu'on a capté en mai, quand c'est à l'époque pluvieuse. Donc, pour là, tous les bassins, les citernes sont effondrés et coulés. Et il n'y a rien. Donc, les gens regardent le chemin pour voir où l'aide humanitaire va venir, soit par la mairie ou par autre. Sur la route, nous avons rencontré l'arrivée de PNUD et M. Safrontière, hein, qui sont en route maintenant pour entrer à Pestel pour une visite, tout simplement. Donc nous ne savons pas qu'est-ce qui va y arriver demain, mais pour l'instant, il n'y a rien, et les gens sont malades, ceux qui étaient blessés et sont encore désinéculés. Mais pour aller à l'hôpital, c'est très loin, très éloigné du centre-ville, là où se trouve le centre de santé qui n'est pas vraiment bien équipé. C'est ça le problème, alors.
On l'entend, difficile donc de joindre Pestel. Michel, la charité, est-ce que vos équipes sur place manquent de moyens ?
Donc nous avions là des équipes hier, notamment sur Pestel. Effectivement, la situation elle est très critique. Et puis il n'y a pas la possibilité d'hospitaliser des gens sur place. D'une façon générale, puisqu'il y a eu un afflux massif de blessés là au cours des derniers jours, les pansements commencent à manquer, les médicaments et tout ça. Et puisqu'on fait face aussi à un grand nombre de fractures externes, on ne peut pas recouvrir ces pansements avec un seul plat. Donc d'avoir des fixateurs externes en quantité est vraiment là le besoin médical et crucial pour être capable d'opérer les patients qui sont traités là sur les cas Jérémy et aussi pour les patients qui sont traités sur Port-au-Prince.
Est-ce que vous allez recevoir ces pansements, ces médicaments ?
Donc une partie des centres qui sont dans le Grand Ouest, qui sont soutenus par Médecins sans frontières, sont déjà approvisionnés par des projets qui étaient préexistants au tremblement de terre depuis Port-au-Prince. Et demain, mercredi, il y a un premier vol régulier là, qui arrive avec 6 tonnes là, de matériel et de matériel médical qui arrivent. Et puis, il y a deux full charters qui arriveront aussi au milieu de la semaine pour apporter à la fois du matériel médical, mais aussi des articles non-vivres qui permettront aux gens, donc des bâches, des réservoirs, qui permettront aussi là, d'avoir des biens de première nécessité pour ceux qui n'ont plus de maison aujourd'hui.
Plus largement, comment s'organise la logistique entre cette partie du pays et Port-au-Prince ?
Je dirais que tout l'enjeu est autour du transport. Donc la voie, la route est toujours praticable entre Port-au-Prince et les Cailles. Il y a certains engins qui sont en train d'ouvrir les voies entre Jérémy et les Cailles. Donc je dirais que la question du transport est extrêmement critique. Et puis dans un deuxième temps, on a aussi beaucoup de patients qui sont référés en hélicoptère et certains acteurs de l'aide, dont MSF, ont aussi là mobilisé des hélicoptères supplémentaires à la fois pour acheminer du matériel et faire et amener du personnel pour renforcer les structures de soins, mais aussi là pour référer vers Port-au-Prince les patients les plus critiques vers les hôpitaux de Port-au-Prince.
C'est-à-dire que vous pouvez emmener du sud-ouest vers Port-au-Prince en hélicoptère les patients les plus critiques.
Voilà, donc depuis samedi, il y a environ au moins 200 patients qui ont été référés vers Port-au-Prince, environ une soixantaine dans les hôpitaux gérés par Médecins sans frontières, et bien sûr, il y en a aussi d'autres là, qui sont envoyés vers d'autres hôpitaux. Donc, ces patients qui sont les plus critiques, avec des polyfractures ou des traumas crâniens, sont pris en charge sur Port-au-Prince aujourd'hui.
Merci, Michel Lacharité, d'avoir été en direct avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable des urgences à Médecins sans frontières. Et face à cette situation dramatique, Karim Lipod, la communauté internationale se mobilise. Les États-Unis ont renforcé leur soutien.
Oui, c'est-à-dire aujourd'hui dans le Miami Herald, l'armée américaine On verra 8 hélicoptères dans les régions touchées pour transporter du matériel et pour évacuer aussi des blessés. C'est le double de ce qui était prévu dimanche dernier, donc 8 hélicoptères au lieu de 4. Les hélicoptères sont stationnés au Honduras et en Jamaïque, mais ils ne pourront être dépêchés sur place que si les conditions météorologiques sont favorables, selon le Miami Herald.
Et l'aide de l'étranger est précieuse, mais elle peut aussi être détournée, ce qui aggrave encore plus la situation.
Oui, exactement. C'est le thème de l'éditorial du Nouvelliste aujourd'hui. Depuis plus de 10 ans, écrit le journal haïtien, un aréopage d'experts, de politiciens, de faux amis et de vrais samaritains transforme tout en projet inachevé. Il est à craindre que le séisme du 14 août 2021 ne serve que de prétexte pour de nouveaux détournements par incompétence, gourmandise ou inadvertance, estime le Nouvelliste. Selon le quotidien, il est devenu très facile de détourner des fonds d'aide, ce qui fait qu'à la fin, ce ne sont pas les catastrophes naturelles qui font le plus de dégâts en Haïti, mais plutôt les promesses non tenues et les rapines à grande échelle, peut-on lire dans le Nouvelliste.
Merci Arim Lipold, on vous retrouve demain pour la revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
Le journal des Outre-mer présenté par Benoît Ferrand. Et Benoît, il faut désormais montrer patte blanche entre les Antilles et la Guyane.
Oui, pour les personnes non vaccinées en tout cas, les conditions d'entrée sont désormais draconiennes. Motif impérieux, plus test négatif exigé à l'embarquement en Martinique ou en Guadeloupe avant un nouveau test à l'arrivée à l'aéroport Félix Éboué à Cayenne. Guillaume Perrault.
Dorénavant, les personnes non vaccinées de plus de 12 ans voyageant en provenance des Antilles seront dépistées à leur arrivée. Un test antigénique réalisé juste après avoir justifié de son identité auprès des agents de la police aux frontières. Piloté par la préfecture, le dispositif est composé de membres de l'Agence régionale de santé et de la Croix-Blanche. Si le test est négatif, il est conseillé aux voyageurs non vaccinés de réaliser une septaine et de se tester à l'issue de cette quarantaine. Si le résultat du test antigénique est en revanche positif, la personne non vaccinée est contrainte par un arrêté préfectoral nominatif de respecter un isolement de 7 jours à son domicile ou dans un lieu d'hébergement connu des services sanitaires. La préfecture assure que des contrôles seront réalisés pour vérifier si les voyageurs en provenance de Pointe-à-Pitre ou de Fort-de-France respectent bien leur quarantaine.
On reste en Guyane avec ce nouveau succès pour le petit lanceur européen Vega. Il a placé sur orbite avec succès, donc dans la nuit de lundi à mardi, la nuit dernière, 5 satellites, dont le deuxième de la constellation Pléiade Néo, destiné à observer la Terre. Vega a également mis sur orbite 4 CubeSats, autrement dit des nanosatellites. Bruno Gérard est le directeur d'Ariane Espace en Guyane. Il est au micro de Jean-Gilles Assa.
On est tous très satisfaits de ce lancement Vega qui s'est remarquablement bien passé, la campagne et bien sûr le vol. Ça en fait 3 pour le début d'année, c'est bien. Il nous en reste quand même toujours 5 à faire pour arriver aux 8 a priori que l'on va effectuer cette année depuis la Guyane. Comme on a déjà fait une A5 et 2 Vega, il nous reste 2 Ariane 5 à effectuer, 2 Soyouz a priori et une Vega.
Un vol un peu particulier parce que là, il y avait quand même un satellite d'environ une tonne, mais 4 petits satellites. C'est le nouveau créneau choisi par Ariane Espace.
C'est un marché intéressant, hein, et avec l'aide de l'ESA qui a développé plusieurs concepts matériels permettant de larguer ces CubeSats, on peut en effet proposer à des clients qui sont des institutions, des universités, des solutions de microsatellites dans l'espace qui sont extrêmement intéressantes pour eux.
Bon après-midi, Mayeul, à demain.
Merci Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques consacré à la situation dans le pays. Le bilan est pour l'instant de 1400 décès.
RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
Bienvenue au théâtre.
Le théâtre,